devrait payer 200 millions. Or, elle laisse que 40 millions aux impôts, 5 fois moins.
Elle devrait certainement en payer plus, quoi. Mais du fait que de la défiscalisation, des niches fiscales, pour elle, ça doit compter aussi, elle minore son impôt sur le revenu.
Alors là, on rentre au bistrot juste derrière L'Oréal.
Il y a du sang de pauvres dans l'argent des riches. Oh, oh, oh. Il y a du sang de pauvres dans l'argent des riches. Voilà une sentence bien excessive et bien démagogique. Pensez-vous, nous sommes persuadés qu'il n'y a pas de lien entre, hélas, la pauvreté des uns et chance, l'argent des autres. Il n'y a pas de lien. Ils ont la chance d'être riches, et bien qu'ils le soient riches. C'est ce que beaucoup d'entre nous pensent quand on évoque la figure de Madame Bettencourt ou de ceux qui sont les plus riches d'entre nous. Eh bien si, il y a un lien, et on le démontre très facilement, on l'a démontré très facilement, entre le sort de ces infirmières de l'hôpital d'Amiens, qui vont être licenciées, leurs postes vont être supprimés, faute de fonds, faute d'argent public, alors que Madame Bettencourt ne paye que 9% d'impôts. C'est aussi direct que ça. Et on peut continuer, et c'est ce qu'on a fait dans les deux numéros précédents, entre ces vases communicants, ces liens qu'il y a bel et bien, ce détriment entre l'enrichissement des uns et l'appauvrissement des autres. La fraude fiscale en France est estimée, par exemple, à entre 40 et 50 milliards d'euros, selon le SNUI, le Syndicat National Unifié des Impôts, dont nos deux inspecteurs que vous venez d'entendre, M. Gourguéchon et M. Drezet, font partie. C'est beaucoup de sous, ça, quand même. Et là, on parle de fraude, on ne parle pas de légalité. On a vu cette avocate fiscaliste nous expliquer ce que pouvait être l'optimisation des revenus dans la plus grande légalité, mais dans la plus grande injustice. C'est donc bel et bien là, au niveau du budget qui se discute, qui se débat en ce moment, que se joue l'essentiel du geste politique, l'essentiel de la politique, l'essentiel des idées et de l'idéologie politique, tout simplement. Je le disais en commençant, on est devenus tous, je crois que c'est depuis longtemps quand même, impôtophobes, personne n'aime payer ses impôts. Eh bien, c'est bien dommage. Il y a d'abord des pays où les gens sont ravis de les payer parce qu'ils savent où ça va, ils savent ce que ça peut réduire en termes d'inégalité et en redistribution des richesses. C'est un rêve que beaucoup ont fait, qui est inscrit dans nos lois, qui est inscrit dans nos rêves et dans les grandes idées qui parcourent l'histoire de l'humanité. Pas moins, c'est jusqu'à 16h, c'est la Basculation.
L'autre jour au café, j'ai entendu un député qui a un ami murmurer ceci: prends tes précautions et surtout fais bien attention aux prochaines contributions. Puis mystérieux et très sérieux, il ajouta: mon vieux, si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette, ton tambour avec tes baguettes, tes castagnettes et tes gros locos. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton phono, cache tes rouleaux, cache tes claquettes, ton trombone et ta clarinette. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano.
Alors, Vincent Drezet, Gérard Gourguéchon. Alors Vincent Drezet, vous avez écrit plein de bouquins, vous, alors en ce moment, vous arrêtez pas. Pour un big bang fiscal, ça vient à peine de sortir, que vous publiez maintenant, il faut faire payer les riches. Moi, je veux bien qu'on fasse payer les riches, je veux bien payer aussi, mais est-ce que l'impôt, ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est efficace pour réduire les inégalités, pour la redistribution, ainsi de suite, ou bien est-ce que ça sert à rien, et à ce moment-là, je vois pas pourquoi on paierait?
Si on vivait dans une société sans impôts, il faudrait qu'on se paye les services publics.